Good Morning Market, le club de la bourse.
Good Morning Market avec Étienne Brack sur ce plateau, évidemment. Et comme tous les vendredis, c'est Marc Fiorentino qui nous a rejoint, associé gérant de Roland. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes en forme?
Je sais pas si je peux dire que je suis en forme. Je suis assez triste cette semaine parce qu'il y a pas mal de nouvelles qui m'ont attristé.
On va y revenir. D'abord, on commence par les déclarations de Friedrich Merz ce matin. Vous vouliez revenir là-dessus?
Oui, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Les Allemands se réveillent, il est temps. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est toute cette séquence depuis 25 ans entre la Chine et les États-Unis, et puis la phase finale, en fait, ce qui à l'époque était du long terme, c'est-à-dire à l'époque on se disait, bon, on sait très bien qu'on est en train de se faire avoir avec la Chine quand on l'a fait rentrer à l'OMC, on sait très bien qu'ils font du dumping, mais ça nous a arrangé tous, parce qu'ils produisaient, c'était l'usine du monde, oui. Ils produisaient des t-shirts, puis on se disait c'est génial parce qu'on va payer nos t-shirts moins chers, donc on n'a pas eu d'inflation pendant 20 ou 25 ans, donc c'était quand même un rêve. Et puis on s'est dit, bon, évidemment... À moyen et long terme, mais 25 ans après, le long terme, c'est devenu du court terme.
C'est le retour de bâton.
Et aujourd'hui, c'est même pas le retour de bâton, c'est une destruction totale de l'industrie européenne. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que on n'est pas conscient, on en parle un peu comme est-ce qu'il faut mettre des droits de douane, est-ce qu'il faut renforcer la réglementation. On parle pas de ce que c'est. C'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, la guerre qu'a menée la Chine au monde. Et les États-Unis lui ont fermé la porte avec raison, et maintenant elle se retourne vers l'Union européenne. Ben, c'est un travail de destruction massive. Alors, évidemment, on a des petits exemples. Alors, quand je dis petits exemples, c'est des exemples très importants avec l'industrie automobile, où on donne l'impression que c'est un peu anecdotique, qu'il n'y a que ça. Mais non, mais dans tous les secteurs, c'est une destruction massive, des secteurs à valeur ajoutée. Et puis maintenant, c'est plus les t-shirts, c'est l'intelligence artificielle. Demain, ça va être la robotisation. Les Chinois sont leaders dans le domaine de la robotisation. On parle beaucoup de l'IA, on ne parle pas de la robotisation. La robotisation, c'est la prochaine révolution. Enfin, je dis la prochaine, elle est en cours, révolution industrielle. En gros, c'est un cas d'école de comment un continent, le monde entier, mais surtout un continent, s'est fait complètement avoir. Et Merz essaye maintenant de se dire, il regarde les chiffres, ils sont désastreux. Parce que nous, l'avantage qu'on a, c'est que notre industrie, elle était déjà pas compétitive. La sienne, elle l'était, et la Chine est venue lui manger toute son industrie. On annonce quand même 450 000 emplois dans l'industrie qui ont été perdus en 5 ans en Allemagne. Et puis là, il se réveille en disant, ah, le yuan est surévalué de 20 à 30%, c'est ce qu'il déclare hier. Mais en fait, le yuan, c'est même plus le sujet. C'est-à-dire que même si le sujet, le yuan remontait de 30%, de toute façon, on n'a plus la capacité de concurrencer la Chine.
Un commentaire, Étienne Brack.
En tout cas, sur les marchés, vous avez une vraie rotation par rapport à tout ce qu'on vient de dire. La première victime, c'est le secteur automobile. Vous l'avez encore vu cette semaine, BMW qui fait un profit warning.
Et ce n'est que le début.
D'autant plus que BMW vous dit, en Chine, c'est compliqué parce que le consommateur chinois n'achète plus des voitures allemandes. Et donc, c'est là-bas où ces dernières années, il gagnait des parts de marché. Idem pour Mercedes, mais aussi pour beaucoup d'acteurs du luxe français. Et en plus de ça, sur le marché allemand, mais aussi sur le marché européen, vous avez des parts de marché qui se font là aussi grignoter par la concurrence chinoise. Et c'est-à-dire, autant il y a quelques années, on pouvait dire non, mais ils ne sont pas au niveau, etc. Aujourd'hui, quand vous comparez les modèles chinois et les modèles européens, vous avez des modèles qui sont moins chers, et surtout sur l'électrique, qui ont une longueur d'avance. Parce que pendant des années, l'Europe, et en partie surtout les constructeurs allemands premium, ont totalement ignoré la vague électrique.
Alors, on parle de l'automobile, Étienne a raison, mais tu as mentionné le luxe. Le luxe, je pense que ça va être la prochaine automobile. Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, les nouvelles générations chinoises, les marques chinoises, elles n'ont pas du tout l'image d'une marque de copie cheap.
Non, ils n'achètent plus les marques européennes, là, maintenant, ils achètent leur propre marque.
Et donc le deal, c'est exactement ce que disait Étienne, c'est-à-dire que le deal, c'était de dire, on vous ouvre le marché chinois, donc on s'est tous précipités là-dedans, parce que c'était quand même une promesse fantastique, quoi. On vous ouvre le marché chinois, puis nous, de toute façon, on ne va pas vous copier. Puis d'un coup, non seulement ils ont copié, mais ils font mieux que nous. Sur la voiture électrique, ça y est, c'est fini, la messe est dite. Sur les chargeurs, la messe est dite. Sur l'intelligence artificielle, maintenant, on est coincé entre les États-Unis et la Chine. Et puis, maintenant, on va avoir les industries. Je pense qu'il va y avoir tous les pans des industries qui vont connaître le sort de l'industrie automobile. Et ça me rend extrêmement triste.
Évidemment. J'ai pas l'impression que l'accord signé cette semaine entre le président américain et iranien vous a redonné de l'énergie,
non.
Marc.
Non, parce que c'est un très mauvais accord.
Oui. Charles-Michel disait ça aussi tout à l'heure.
Oui, on commence à avoir les termes. Enfin, c'est un accord dans lequel il s'est précipité. Alors, en fait, On était certain qu'il ne voulait pas que cette guerre dure. Ça, c'était vraiment mon point de développement du début. Je me suis dit, cette guerre va être courte parce que de toute façon, il y a les midterms, il veut être le président du pouvoir d'achat, il veut que le prix du pétrole baisse. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il se couche comme il est en train de se coucher, juste pour faire un accord le plus vite possible, pour que le prix de l'essence rebaisse, pour que le prix du crédit rebaisse.
Avec tout cet argent déversé en plus.
Avec de l'argent qui va être déversé, avec aujourd'hui... Alors, bon, la seule bonne nouvelle dans ce désastre global, parce que je pense qu'on peut parler de désastre, la seule bonne nouvelle dans ce désastre global, c'est qu'on va peut-être assister à un contre-choc pétrolier. Parce que, voilà, à partir du moment où on va lever les sanctions sur une partie du pétrole iranien, à partir du moment où le pétrole russe continue à couler à flot parce qu'on a ouvert les vannes, à partir du moment où le pétrole du Venezuela va revenir sur le marché, que les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP pour pouvoir produire plus, que les États-Unis produisent à plein, bon, il est certain qu'on va avoir un élément... la pauvre Christine Lagarde va enfin comprendre qu'il n'y avait pas d'inflation et que c'était juste la hausse des prix du pétrole. D'ailleurs, je trouvais ça très intéressant de voir la différence de jugement entre la Banque d'Angleterre et la BCE. C'est quand même incroyable la différence entre ces deux banques centrales. La Banque d'Angleterre, hier, n'a pas relevé ses taux en disant tout simplement... Écoutez, l'inflation est due à la hausse des prix du pétrole. Dès qu'il y aura la fin du conflit, le pétrole va rebaisser, donc il n'y aura pas d'inflation. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à la BCE depuis des mois, et elle a remonté les taux. Alors, et c'est l'autre sujet un peu de tristesse, excusez-moi pour cette semaine, je ne suis pas en grande forme, c'est toutes les indications sur l'économie européenne.
79$ le baril, oui. Ce matin, c'était 77 hier.
Oui, on perd 10% là sur le pétrole sur l'ensemble de la semaine. C'est quand même l'un des grands enseignements de ces derniers jours. C'est comment le pétrole est tombé comme une pierre. Il faut voir qu'on est monté au-delà des 110-115$ au mois de mars. Et là, ce matin, on se retrouve à 80$. Il ne manque plus que 10$. Il faut voir que fin février, juste avant le conflit, on était à 70$. Et ça bouscule totalement toutes les projections. C'est-à-dire que, encore, quand vous regardez les chiffres de l'INSEE sur la prévision de croissance, ils vous disent, oui, le pétrole sera à 85, mais qu'il soit à 85, 70, enfin, à chaque fois, ça change toutes les prévisions. C'est-à-dire que toutes les prévisions qu'on voit ces dernières semaines, il faut les prendre avec beaucoup de précaution parce que tout est basé, ou presque, hein, si je grossis un petit peu le trait, sur ces cours du pétrole et donc, in fine, sur les données d'inflation.
Et encore, là, on est dans cette phase des 60 jours où il va y avoir des hauts et des bas. Parce que là, vous voyez, vous avez dit vous-même, on est remonté un tout petit peu, parce qu'il y a eu une annulation de la séance de négociation qui devait se tenir aujourd'hui. Donc, on va avoir un jeu où les Iraniens vont dire, nous, on veut des droits de passage sur le détroit d'Ormuz. Les Américains vont dire, on va vous bombarder. Donc, c'est pas encore terminé. Donc là, il faut bien dire, expliquer aux gens qui nous écoutent, on n'a pas d'accord final, hein. On a un pré-accord et l'ouverture de négociations qui vont durer. On nous dit 60 jours, ça va être peut-être 90 jours, ça va être peut-être 120 jours parce que les Iraniens sont très forts, parce que pendant ce temps-là, ils vont gagner de l'argent et ils vont vendre du pétrole, ils vont récupérer leurs avoirs gelés. Donc, ils sont très contents de faire perdre du temps. Et donc, pendant ce temps-là, on va avoir le pétrole qui va rester dans ces eaux-là. Mais une fois qu'il y aura un accord, on peut avoir un pétrole qui peut redescendre à $50.
Étienne ?
Ce qui m'inquiète, et on va bientôt rentrer dans la période des résultats semestriels, c'est la capacité ou non des entreprises à pouvoir s'adapter. Vous avez vu hier quand même Accenture décrocher de 18% parce que le groupe a revu d'un point son chiffre d'affaires pour son objectif cette année. Et encore, c'est un marché très américain, donc c'est le marché qui est censé être le plus résilient. Ils vous disent, il y a beaucoup de projets là qui sont au point mort, beaucoup de sociétés qui, eh bien aujourd'hui, ne savent pas où en fait elles en sont, que ce soit sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur leur développement à l'étranger. Et donc ça sera un moment crucial, là, fin juillet, début août. En plus, il y a assez peu de personnes sur les marchés à cette période-là, où les entreprises, elles vont devoir ouvrir les comptes et dire, bon bah voilà ce qui s'est passé. On a quand même eu un deuxième trimestre, hein, parce que cette guerre a quand même duré quasiment l'entièreté du deuxième trimestre, qui aura probablement un impact.
Et Étienne, je pense que ce que tu dis sur Accenture est très important. Pour moi, cette baisse hier de près de 20% et on perd à peu près 60% sur un an, c'est quand même un élément essentiel aussi du prochain sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne va plus parler de la guerre en Iran, on va parler de l'IA. Et Accenture, le sujet... C'est évidemment le ralentissement de l'économie, mais c'est surtout le sujet de l'IA. C'est-à-dire le sujet de se dire, en fait, on voit très bien ce que l'IA détruit. On le voit très bien. On voit très bien ce que l'IA permet de gagner, mais de gagner en termes d'investissement, pour l'instant pas en termes de rentabilité. Les chiffres de SpaceX sur la partie IA sont mauvais, sur OpenAI ils sont mauvais, sur Anthropic ils sont mauvais, par rapport à des investissements qui sont colossaux. Mais pour l'instant, on voit toujours pas le bénéfice, il va falloir du temps, en termes de rentabilité de l'IA. Donc ça, le sujet des mois qui viennent sur la bourse, et pour Étienne et pour nous, ça va être l'IA.
Et puis, c'est là qu'a choisi d'entrer en lice Kevin Warsh à la tête de la Fed cette semaine. Il dit qu'il va rester indépendant.
Oui, mais je suis très très surpris de tous les articles et de tous les commentaires qui tombent dans le panneau de il a changé de ton, il était colombe, il est devenu faucon. En fait, ce gars est super intelligent. C'est-à-dire que évidemment, il a les mains liées. C'est-à-dire, il ne peut pas remonter les taux d'intérêt. Voilà. Il est au service de Donald Trump, c'est Donald Trump qui l'a nommé. Il va devoir baisser les taux d'intérêt, probablement avant la fin de l'année. Il va devoir les baisser. Sauf que quand vous êtes face à des marchés qui ont besoin d'être assurés sur votre combat de l'inflation, en fait, vous faites le plus simple. C'est-à-dire vous faites des déclarations qui sont des déclarations dures pour ne pas avoir à faire des actions qui sont des actions qui vont être molle. Et donc, pour gagner en crédibilité, il dit, dans l'inflation, je vais vraiment me battre. Et puis, tout le monde tombe dans le panneau en disant, oh là là, mais c'est complètement dingue, il va remonter les taux d'intérêt alors qu'on avait dit. Mais évidemment qu'il va pas remonter les taux d'intérêt. Il va pas les remonter parce que d'abord, comme disait Étienne, la situation aux États-Unis, pour l'instant, elle est bonne, mais quand même, il y a quand même des signaux faibles qui sont pas très bons. D'accord. Pour l'instant, on sait très bien que tout ça tient grâce à l'IA. 2/3 de la croissance, directement ou indirectement, vient de l'IA. On va voir ce que tout ça va donner. Et puis, de l'autre côté, on est dans une situation globale, mondiale, avec une croissance qui est quand même une croissance relativement bonne. Prix du pétrole qui baisse, donc moins d'inflation, donc aucune raison de monter les taux d'intérêt. Mais on est tous tombés dans le panneau.
Étienne, pour finir.
Pour boucler la boucle. Il sera également question d'inflation, puisque Kevin Warsh est persuadé que l'inflation va améliorer la situation de l'inflation aux États-Unis. Il pense en fait que ça va apporter des gains de productivité, et que Absolument. Donc, in fine, les problèmes actuels aux États-Unis, parce que ça fait quand même depuis 2021, ça fait 5 ans que l'objectif des fameux 2% d'inflation aux États-Unis sont dépassés. Alors certes, là, ces dernières semaines, ça a été fortement pénalisé par les cours du pétrole sur l'inflation, mais il y a une inflation qui est quand même toujours persistante dans le secteur des services, et Kevin Warsh, ça fait plusieurs semaines qu'il dit « Non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir avec l'inflation, il y aura des gains de productivité. » Et donc, in fine, ça va donner un petit peu un bol d'air. Là aussi, il faut lui laisser un petit peu de temps, parce que pour l'instant, on parle beaucoup d'inflation, mais les gains de productivité dans les entreprises, on peut les voir dans certaines entreprises, mais ce n'est pas encore généralisé.
Mais on commence à les voir dans les chiffres, c'est très important. On commence à voir aujourd'hui le grand gagnant de la productivité, ça va être les États-Unis, c'est certain.
Marc Fiorentino à la tête de C'est votre argent. Ce sera à 20h. Ce sera une émission exceptionnelle.
On va parler de tout ça. On vient de me dire que c'est exceptionnel. On vient de me l'annoncer dans l'oreillette.
Merci beaucoup, Marc.